Bon matin à tous. Oh. Ça me fait un peu rigolo. Moi, j'ai pas oublié, toutefois, ça c'est l'avantage. Je n'ai pas oublié un PowerPoint, une projection, un diapo. Mais il n'y a pas de diapo ce matin, donc je me dis ça s'ajoute au ce qu'il n'y a pas. Mais voilà. Le titre de mon message, c'est « Où est Jésus? » Et la réponse, c'est « Il est parti à l'église. » Donc, Jésus est à l'église. Donc, où est Jésus? Jésus est à l'église. Je le dis tout de suite comme ça, si des fois j'oublie de donner la réponse plus tard, vous l'aurez. Mais aujourd'hui, je ne vous fais pas déplacer. Souvent, je vous fais bouger, si tu te rappelles de quelques messages. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais vous faire le message de toutes les fois que je vous fais déplacer. Le cœur de ce qui m'inspire à vous faire bouger, c'est ça va être dit dans la prédication ce matin. Je vais le faire un peu mon message et j'ai prévu de le faire en trois points. C'est d'abord parler de moi, parler de nous, puis de dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Marc le mentionnait tout à l'heure, Sophie et moi, on va partir en France. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur cette partie de moi, mais juste pour le préciser ou l'informer. Parce que là où je travaille, à ATD Quart-Monde, on m'a demandé de joindre la délégation générale. Et la délégation générale, c'est comme ceux qui supervisent l'ensemble du mouvement ATD Quart-Monde dans le monde pour s'assurer que partout on poursuit la même vision, la même mission et qu'on donne toujours une importance à permettre aux plus pauvres dans la société de trouver une place dans la société. Pardon. Ça, c'est une des choses terribles que je fais. J'ai écrit des belles notes. C'est tout est écrit, c'est donc textuel, mais je ne suis jamais très bon pour suivre ce que j'ai écrit. Donc, juste pour résumer, avec ATD Quart-Monde, je passe à d'autres choses après, mais notre idée, c'est de pouvoir permettre de faire reconnaître que les gens qui vivent la pauvreté ont une place dans la société, mais que aussi la pauvreté, c'est une violation des droits humains. C'est une manière, la pauvreté en soi, ça brime les êtres humains. Et donc, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat des décisions d'humains qui briment d'autres êtres humains. Moi, ça m'amène aussi dans une réflexion, par exemple, par rapport à dans l'Église, qu'est-ce que ça représenterait, comment ça se vivrait. Eh bien, quelle place, ça m'amène à me poser la question, quelle place qu'on peut faire aux plus pauvres, quelle place qu'on peut faire aux personnes qui vivent la pauvreté. Et je réalise que j'ai sauté un point. Excusez-moi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avant. Je vais vous lire deux passages, juste pour introduire. On va tourner dans Éphésiens chapitre 5. Puis je reviens sur la place des gens en situation de pauvreté à l'Église. Ça ne sera pas long. J'ai choisi des versets qui parlent de l'Église, en fait. Vous allez voir. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 32. Marie, donc c'est les époux, là. C'est pas... Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu, au chapitre 18, et comme c'est la parole de l'Évangile, je vous invite à vous lever debout. On lit juste un verset, mais je vous invite à lever debout pour lire le verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas fait bouger, mais je vous ai fait lever. En fait, j'ai beaucoup apprécié un jour dans une église qui, au moment de lire le texte de l'Évangile, on devait tous se lever. Et ça m'a pris du temps à comprendre, à force d'y aller, puis de réaliser que c'est comme dire, là, c'est la parole de l'Évangile directement qui nous parle de Jésus directement, donc on se lève, on accueille Jésus. Est-ce que je peux faire quelque chose ou je peux faire pas quelque chose pour... Je ne sais pas si vous entendez... Oui? OK, c'est bon. OK, c'est très bien. C'est juste savoir si c'est moi qui... Je peux parler moins fort peut-être, mais voilà. Très. Donc, pour revenir... Parce que je ne voulais pas qu'on reste ces textes de l'Évangile, de la Bible. Ce que je fais à TD Carmonde, l'image que ça nous amène à... permettre de donner une place aux gens qui vivent la pauvreté dans la société. Quand je dis ça, ça veut dire, par exemple, qu'on prépare des prises de parole pour aller parler à des députés ou aller parler à la ville de Montréal ou à d'autres villes pour que les idées des gens qui vivent la pauvreté soient prises en compte. Parce que les gens qui vivent la pauvreté expérimentent quelque chose dans la société que les gens de la classe moyenne ou les gens qui ont beaucoup de moyens ne perçoivent pas et ou n'imaginent pas. Et donc, s'ils peuvent venir prendre la parole et exprimer leurs idées, ça peut transformer notre société. Cette même idée, moi, elle m'inspire dans l'Église, puis je me dis, mais comment on peut s'assurer de faire une place, donner une place aux gens qui vivent la pauvreté dans l'Église, dans la société de Dieu, si on pourrait dire. Parce que le Seigneur, il aspire à ce que tout le monde puisse prier, louer, le servir, le bénir. Souvent dans nos églises ou dans notre monde chrétien, on va voir la pauvreté comme quelque chose qui est ailleurs, quelque chose qui est au-delà. Et on va aller les aider, on va aller leur donner des choses, on va aller les soutenir, on va aller essayer de les sortir de la pauvreté. Mais inconsciemment, souvent dans le monde chrétien, on voit la pauvreté ailleurs, en dehors. Et je dirais que, en fait, ce qui est précieux, c'est de faire une place à ces personnes parmi nous. Je n'ai pas lu avec vous, mais si vous pensez... il y avait souvent Jésus allait se réfugier quelque part. Quand il était à Jérusalem, il sortait de la ville pour aller se réfugier dans une ville à part. C'était là qu'habitaient Lazare, Marthe et Marie, par exemple. Et ce petit village, il s'appelait, en tout cas, Béthanie. Je pense que ce n'est pas juste une anecdote, mais ce qui me fascine, c'est que Béthanie, ça veut dire la maison des pauvres, la maison du pauvre. Et ça me fascine de voir que, où est-ce que Jésus allait se reposer, se réfugier, quand ça n'allait pas très fort? Il allait dans un village qui s'appelle la maison du pauvre, ou la maison des pauvres. Et donc, pour Jésus, ce qui est précieux, c'est que ce n'est pas juste la pauvreté ou les gens qui vivent la pauvreté, ce n'est pas juste des gens en dehors, c'est des gens en dedans. Pardon. Je dirais ce qui m'impressionne, ce que je trouve qui est précieux, qu'on peut imaginer, qu'on peut penser, c'est de dire quand on rencontre des gens qui sont en situation de pauvreté, avant de se demander, OK, qu'est-ce que je peux leur donner, là, je fouille dans mes poches pour comme trouver de l'argent ou quelque chose, mais je disais, comment je peux inviter cette personne-là à prier? Est-ce que je pourrais lui demander à cette personne-là de prier pour moi? Est-ce que je pourrais inviter cette personne-là à faire un don? Est-ce que je pourrais inviter cette personne-là à chanter avec nous? Est-ce que je pourrais proposer à cette personne de participer, de venir donner un coup de main à quelque chose différent? Ou à nous partager qu'est-ce que Dieu a mis sur son cœur? En fait, ce que je suis en train de dire, c'est des choses ordinaires qu'on peut toutes se faire les uns avec les autres. Et c'est ce qui est précieux. Ici. Pour moi, même, j'ajouterais, et c'est ce qui nous amène à toujours être avec Athée de Carmont, je dirais, c'est que les gens qui vivent la pauvreté, encore, je suis encore dans la partie que je parle de moi, en fait, hein, ça n'a pas de l'air, mais vous m'excuserez, je vais passer à d'autres choses après. Je vais passer à nous après, ça s'en vient. Mais dans le langage de la mission, je considère que les gens qui vivent en situation de pauvreté sont encore un peuple non atteint. C'est les gens, et ceux qui entendent parler de la mission, vous connaissez l'expression, on calcule dans le monde, quels sont les peuples qui ont le moins entendu, qui ont le moins accès à l'Évangile. Et personnellement, même si ce n'est pas un peuple unique, mais c'est dans tous les peuples, il y a les gens qui sont en situation de pauvreté, et souvent, ils sont les moins atteints. J'en tiens pour anecdote un peu. C'était un jour, un missionnaire m'avait dit, « Ah, nous, dans notre pays, là où il était, il dit, on cible la classe moyenne. » Et c'est pas mal, mais ça m'avait fait réfléchir à ce moment-là. Je me dis, « Ah, c'est sûr que... c'est une idée. » Mais je me suis dit, peut-être c'est lui qui m'a provoqué à réfléchir à cette idée-là. Il dit, « Ah, mais si on cible la classe moyenne, les moins atteints, c'est les plus pauvres. » D'une certaine manière. Et donc, c'est ce qui m'inspire, moi, à toujours à être à l'œuvre avec les gens en situation de pauvreté. Et ce qui m'amène quand même à dire que je suis béni dans notre Église ici. Parce que je trouve que dans notre Église, on est en mesure d'accueillir, on accueille des gens d'un peu partout, de toute classe, de tout milieu, de toutes conditions. Et voilà. Je voulais vous le dire. Je voulais vous dire que dans notre Église, moi, je suis bien. Et je trouve précieux que justement dans notre Église, on accueille, nous sommes des gens de plusieurs milieux, de plusieurs conditions, et on n'en fait pas de cas ou d'histoire comme telle. Je réalise qu'on n'est pas une église des fois, et quelqu'un m'avait sorti attends, c'était qui? C'était Martin Bellemare, où il m'avait raconté. Parce qu'on a un ami commun, Martin Bellemare, qui était ici quelques années, mais quand moi, je n'étais pas ici, quand j'étais au Sénégal. Ah, j'ai dit Bellemare. Oui, Belle-Rose, oui, merci. Belle-Rose. C'est ça? Martin Belle-Rose. Ah, excusez-moi. Oui, je parlais d'un inconnu. Mais Martin Belle-Rose. Donc, il était à l'église ici quand moi, j'étais au Sénégal. Donc, je l'ai croisé à peine quelques fois ici. Mais par une connaissance commune, un homme qui agit aussi pour lutter contre la pauvreté dans le même quartier où ce que Martin Belle-Rose habitait avant. Je rencontre Martin, puis je lui dis, « Hey, tu connais-tu François? » Puis il dit, « Oui, je connais François. » Et en fait, il m'apprend qu'il avait déjà invité François ici. Parce qu'il a dit, « Cet homme François, qui se préoccupe des plus pauvres, il a besoin de découvrir notre église. » Et il trouvait que c'était une église qui était un exemple d'un endroit qui faisait de la place à tout le monde, qui fait de la place à tout le monde. Et c'est pour dire que Ça fait longtemps qu'il m'a dit ça, là, mais... Et donc, j'ai recroisé François après, cet homme-là, et qui est aussi quand même croyant, mais il est catholique. Mais il est toujours ravi de me parler, puis il m'envoie des connexions, des trucs sur la foi, qui sont super édifiants. Et voilà. Mais c'est juste pour vous dire que toute mon introduction qui parle de la pauvreté, puis que qu'est-ce qui est précieux pour moi, c'est pour vous dire que je le trouve parmi nous. Et ça me bénit. Ça me bénit aussi parce que je trouve parmi nous des frères, des sœurs, je trouve parmi nous des amis, je trouve parmi nous vous. Mais où est Jésus? Ben, je l'ai dit dans l'introduction, hein, vous avez douté, mais... Souvent, quand on est à l'église, moi, j'aime bien, pendant la louange, d'une part, j'aime beaucoup fermer les yeux. Ça, je soupçonne que plusieurs d'entre nous, surtout si on connaît les paroles, vous allez dire, mais pendant la louange, on ferme les yeux. Ou pendant qu'on prie, souvent, on a l'habitude de fermer les yeux. Je ne sais pas, vous, je réalise que quand j'ai les yeux fermés, je ne sais pas si vous avez les yeux fermés. C'est toujours dans les classes du Pays des Merveilles, peut-être, c'est « Ah, madame, lui, il n'a pas fermé ses yeux. » En tout cas, quand j'enseignais dans les classes d'école du dimanche, ça faisait comme ça souvent. Et là, je disais, bon, il y a toujours la question « Comment tu sais qu'il n'a pas fermé ses yeux? » Mais c'est précieux parce que je trouve que fermer ses yeux, ça dit quelque chose qui est intéressant. Ça dit que Jésus est en soi. C'est comme si je me concentre. Puis je me tourne vers moi parce que Jésus est présent là dans mon cœur. Quand je faisais des systèmes d'alarme, je travaillais avec des chrétiens, puis je me souviens, il y avait un chrétien, il avait vraiment un don d'évangéliste. Et on travaillait dans un centre quelque part, puis il y avait un jeune avec qui il avait parlé du Seigneur, puis quand moi j'arrive en présence de lui et le jeune, il me dit, « Daniel, demande au jeune où est Jésus. » Donc je demande au jeune, je dis, où est Jésus? Et il me répond, Jésus est dans mon cœur et dans le ciel. Et mon collègue, qui était tout fier de dire, tu vois, il a compris, tu vois, l'évangile. Jésus est dans mon cœur et dans le ciel. Donc, quand je ferme les yeux, souvent, je prends conscience que Jésus est dans mon cœur. Mais entre le cœur et le ciel, j'ajoute, Jésus est dans l'Église. Jésus est parmi nous. Donc, souvent, quand je loue, quand je prie, je ferme les yeux en me tournant vers Jésus qui est dans mon cœur. Parfois, on va lever les yeux au ciel aussi, ou surtout si on est dans la nature. Mais moi, pendant les temps de louange ici, pendant qu'on est à l'église, souvent j'aime ça, regarder autour. Et donc, j'essaie de penser... c'est quoi le chant qu'on vient de chanter, là? Tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Donc j'aime regarder, chanter ce chant par exemple, ou n'importe quel autre chant, et de vous regarder. Parfois je réalise, surtout quand je me retourne de bord vers l'arrière et que les autres voient que je me retourne vers eux, j'espère que vous ne sentez pas que vous me dérangez, tu vois. Parce que c'est le contraire. Je me dis, je loue le Seigneur, et il est où le Seigneur? Ben, il est en toi. Il est en toi aussi. Il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Peu importe nos conditions sociales, nos conditions de citoyenneté ou d'immigration ou d'hébergement, il est là. Et c'est ce que... c'est la chose précieuse que j'aime faire... Entre autres, c'est ça, je vous dis que j'aime pendant la louange. Donc, si vous vous rappelez, par exemple, parfois, quand je vous fais bouger, quand on se déplaçait de place, mon souhait, c'est de nous provoquer à nous regarder. Si vous pensez, anciennement, c'était avant moi, donc moi, je ne m'en rappelle pas, mais je l'ai vu ou je l'ai entendu, et les plus vieux peut-être le savent, tu sais, dans les églises catholiques, le prêtre, il faisait la messe comme ça. Bien, je ne sais pas si on est dans la bonne direction, mais il se tournait vers l'est. Le bâtiment était tourné vers l'est, et donc il faisait dos à la salle, puis il faisait la messe comme ça. Comme je vous dis, je n'étais pas là, je n'ai pas vu. Dans une tradition vraiment différente, mais les musulmans, ils sont comme ça, ils vont tous se tourner vers la même direction quand ils font leur prière. Donc, ils ne se font pas face les uns aux autres. Comme si le Seigneur, il est ailleurs. Mais je dis Seigneur, surtout dans le cas des catholiques ou dans le cas des musulmans, c'est comme s'il est à la Mecque, il est dans un autre lieu. Et fort heureusement, en fait, au moins les catholiques, ils ont tourné les prêtres, ils regardent la salle maintenant. Mais une fois, j'étais fasciné, j'ai visité une église protestante qui avait été construite en rond. Et donc, au centre était la parole de Dieu. Mais ça faisait que quand tu es à l'église, mais tu vois toujours quelqu'un d'autre. Et donc, tu te vois les uns les autres. Et pour moi, ça parle que Jésus est en nous les uns les autres. Que Jésus est présent dans les uns et les autres. Et donc, quand moi je loue, quand je prie, que je regarde autour de moi, je vous invite à m'imiter. Ça sera peut-être quelque chose qui sera un peu particulier, mais à nous. Mais de se dire, ah, je loue Jésus parce qu'il est présent en toi. Et d'ailleurs, juste pour vous le dire, Colossiens le dit d'une manière très forte. Paul, dans l'Épître aux Colossiens, dit de manière très forte, il dit, « Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Dans une autre version, ça dit, « Christ parmi nous. » Cette idée que c'est pas... Souvent, on interprète... J'aurais dû dire ça dans la partie que je parlais de moi. Souvent, j'ai interprété que... Quand il dit « nous », notre Père, c'est comme si c'est moi. C'est moi, mais je dis « nous », mais c'est moi. Mais finalement, dans les Écritures, quand il dit « nous », mais je trouve qu'avec la richesse de l'Église, la richesse des individus que nous sommes et que nous formons, mais c'est nous. C'est nous ensemble, ajoutés ensemble, formés ensemble, qui formons ce mystère glorieux qui est l'Église. Qui est l'Église et qui est l'épouse de Jésus. On l'a lu tout à l'heure dans l'Épître aux Éphésiens. Et ça, c'est un des émerveillements que j'ai quand je pense à l'Église, quand je pense à nous. Mais aussi à d'autres églises, parce que Jésus a pas dit... l'apôtre Paul n'a pas dit... L'épouse de Christ, c'est l'église oasis de l'ACM, ou l'oasis, église de l'ACM, uniquement. C'est nous tous, les églises. Mais ça me fascine que on a une place tellement chérie dans le cœur du Seigneur que ça se compare à une épouse. On est comparé à sa bien-aimée. Ça m'amène souvent, par exemple, quand je visite d'autres églises, bien souvent, j'aime regarder les gens aussi quand je visite d'autres églises aussi, de la même manière, en me disant, le Seigneur est là parmi nous, il est là à l'église. J'aime avoir ce regard et cette adoration, je pourrais dire, du Seigneur, parce que je me dis, dans chaque église, il est là. Souvent, les dimanches, quand je prie, je me dis, ah, quelque part, Seigneur, il y a des frères et des sœurs qui sont en train de te louer. En ce moment, même s'il est tôt le matin ou tard le soir, avec le décalage horaire, le dimanche, il y a toujours quelque part quelqu'un, une église qui est en train de célébrer le Seigneur. Et nous tous ensemble, on forme son épouse, son église. Mais je dois reconnaître que ça me déçoit beaucoup quand je vais dans une église où le prédicateur se met en colère contre l'église. Je sais que parfois, des gens, ça les stimule d'avoir un prédicateur qui parle fort et qui dit « Il y a quelque part dans le monde des chrétiens qui sont comme ceci ou cela. » Et toujours, souvent, des choses négatives. Et ça me déçoit parce que je me dis « Nous tous qui sommes là, nous sommes là. » Les gens qui sont dans l'Église, donc en fait, la prédication sévère, elle n'est pas pour les gens qui sont là à l'Église. Maintenant, on a besoin d'entendre le Seigneur de différentes manières, ça c'est certain. Mais souvent, moi, ça m'attriste quand j'entends quelqu'un qui parle avec sévérité pendant longtemps, disons. Parce que je me dis, nous qui sommes ici aujourd'hui, eh bien, on est venu trouver le Seigneur Jésus. On est venu entendre le Seigneur Jésus, trouver le Seigneur Jésus. Maintenant, le Seigneur Jésus, il n'est peut-être pas dans mon micro. C'est-à-dire que peut-être que vous vous ennuyez, je veux dire, tu vois, là, moi je suis en train de prêcher. Peut-être que moi aussi, ça m'arrive de venir à l'église puis de m'ennuyer. Et là, c'est correct. Pas d'offense, en passant, je l'ai écrit dans mes notes. C'est pas parce que je regarde puis je trouve qu'il y a des gens qui s'ennuient puis qui boillent. C'est pas du tout. C'était écrit, je peux vous le lire. Peut-être que, comme moi, vous vous ennuyez parfois à l'église. Voilà, c'est écrit. Donc, sentez-vous pas visé, s'il vous plaît. Mais ça arrive, parfois on s'endort. Parfois, on a une grosse semaine, tu vois. Parfois, le prédicateur, comme moi, est ennuyant. Parfois, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Ou c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu puis qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Parfois, les louanges, parfois, on regarde des vidéos sur YouTube. Ou parfois, c'est tu vois, nous, on a cette richesse d'avoir plusieurs musiciens, plusieurs, puis là, il y en a peut-être des préférés, puis des moins préférés, puis là, on se dit, ah non, pas celle-ci, tu vois, puis on a, ah, j'aurais aimé savoir c'était qui aujourd'hui, je serais peut-être pas venu, tu vois, je sais pas, j'ai pas actuellement un don de prophétie que je vois dans vos têtes, d'accord, inquiétez-vous pas, aujourd'hui, c'est pas le don que j'ai aujourd'hui. Mais ça arrive, puis là, on se dit, ben pourquoi je vais à l'église? Peut-être que vous avez déjà entendu, vous, bien, je peux écouter des messages, j'ai ma Bible à la maison, je peux écouter des messages sur Internet. Puis là, quelqu'un va dire, ouais, mais il faut louer le Seigneur, chanter, tu vois. Ah, mais maintenant, il y a YouTube, j'ai des CD. J'ai entendu des gens qui ont dit, mais j'ai plus besoin d'aller à l'église, je peux m'édifier tout seul à la maison. Et quelqu'un pourrait dire, mais j'ai pas de don ou je suis pas en mesure de par exemple, je n'ai pas quelque chose à faire spécifiquement à l'église, tu vois, à part d'aller m'asseoir peut-être, puis d'écouter, puis de chanter. Dans l'église, si je n'ai pas l'occasion de prêcher, on se dit, mais pourquoi je vais aller à l'église? Par exemple, si je ne prêche pas, en même temps, il y a 52 semaines dans l'église, il n'y a pas énormément de moments pour prêcher pour tout le monde. Et c'est pas... voilà, c'est pas nécessairement le don de chacun. Là, je vous dis ça, peut-être que vous avez des idées qui vous viennent. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui me dit, mais je sais pas jouer de la musique, je suis pas bon avec les enfants, pourquoi je vais à l'église? Pourquoi j'irai à l'église? Bien, quand je vais à l'église, en fait, je viens rencontrer Jésus. Donc, je vous propose cette part de réponse pour vous. J'ai rencontré Jésus dans ma sœur puis dans mon frère. Et ça, c'est un moment précieux. YouTube, je ne peux pas le vivre. Je ne peux pas le faire. J'ai rencontré Jésus dans la diversité de ce qui nous sommes. Peut-être vous me direz, oui, mais il y en a qui me tapent ses nerfs. Mais Jésus et Dieu, il est infini. Donc, j'ai besoin de le rencontrer d'une manière infinie, d'une manière variée, d'une manière différente. J'entends, Jésus ne peut pas être uniquement semblable à moi puis à mes préférences. Jésus, il est autrement aussi. Et Jésus nous dit une phrase très forte dans Jean 17. Il dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, ils sauront que vous êtes mes disciples. Et donc, pourquoi je vais à l'église? Bien, je viens à l'église pour nous aimer les uns les autres. pour vos amis, toi, toi. Parfois, c'est tout simple, c'est peut-être juste de dire bonjour à quelqu'un, bon matin, bon dimanche. De le dire à un enfant, peut-être que l'enfant ne s'en rappellera pas dans 20 ans, dans 15 ans. Mais il va se rappeler d'une chose, c'est « Ah, quand j'allais à l'église, il y a des gens qui me disaient bonjour. » Je cherchais d'autres exemples, j'ai écrit. Oui. Ça peut être d'aller s'aimer les uns les autres, ça peut être de prier pour quelqu'un, le moment, en tout cas, il y a des choses qu'on connaît, mais ça peut être simplement de donner de l'attention à l'un ou à l'autre, de se dire « Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? » Ou aussi de lui dire « Hey, sais-tu, moi j'ai eu des moments difficiles cette semaine, j'ai besoin de toi. » Ça aussi, c'est une manière de s'aimer les uns les autres, puis de reconnaître que j'ai besoin aussi des uns et des autres. Mais pas toujours dans des choses énormes. C'est des choses toutes simples. Moi, c'est mon secret à moi que je vous dis. Je viens à l'église pour ça, entre autres. Mais souvent. Et je suis précieux, je trouve précieux de pouvoir trouver ici, à l'Oasis, des frères et des sœurs, l'épouse de Jésus, et d'en faire partie, et de pouvoir dire « nous ». Et je vais clore là-dessus, en fait, je termine là-dessus, mais pour vous dire, et c'est le pincement au cœur, quelque part, je me dis, quand on part à quelque part d'autre, il y a souvent la question, est-ce qu'on va trouver une église? On va trouver une église, aussi, on va trouver une église. Est-ce que je vais trouver une église comme l'Oasis, comme vous, mes frères et mes sœurs, qui êtes chers dans mon cœur? Et voilà. Ça, c'est le Seigneur qui nous guidera, j'espère que oui. Mais c'est ma déclaration d'amour pour vous. Voilà. Je vous aime, Église de l'Oasis. Et que le Seigneur nous bénisse abondamment.